las conferencias de Radio Languedoc. Convidat per l'UMEDOC, l'Associación des Estudiants d'Occitan de la Facultat, Claudi Alranc venguet presentar l'història, el funcionament dels rituals de carnaval. Per aquesta 13a partida de sa conferència, menada per Claudi Alranc, escrivant, comediant, universitaire e cercaire, foguet registrada el 12 de desembre de 2012 a l'Universitat Pau Valéry de Montpellier.
Alors, anem passar, si voleu, anem dire quelques mots sur les origines préhistoriques. Déjà se sentís amb l'Athènes, amb la Grèce, avant parlat de Dionysos. Què és el papet de Bacchus? Que Bacchus és el papet del rei Carnaval, que nasquet ell a l'edat mitjana. Mais veses, Calió el fa tuar Carnaval. Alors, l'Eglésia ha inventat Caresmo, el jutjament del rei Carnaval per l'Ucrama. Bon, hi ha hagut com a un canviament de paradigme. Hi ha aussi un changement de paradigme quand on va rentrer dans l'histoire. Et moi, il m'intéresse beaucoup l'étude de ce paradigme. Il m'intéresse parce que c'est lui qui dépoussière le plus l'idée qu'on peut avoir du carnaval. Si on veut ressusciter le carnaval, à mon sens, aujourd'hui, il vaut mieux regarder à ses origines d'abord qu'à tel ou tel moment de son histoire. Bien que tout nous intéresse, c'est vrai que le carnaval de l'Edad Médiane nous intéresse, au père de que, ré carnaval, caresmo, tout ce qu'on peut tirer à qui dessus, n'y a de cause. Mais il y a une cause qui se dit pas prou. La chose que l'anthropologie nous apprend, en différence de l'histoire, c'est ceci. On passe de la préhistoire à l'histoire. Le début de l'histoire, c'est l'histoire de la cité. C'est le moment où les guerres, je dirais pas commencent, mais prennent des formes institutionnelles. C'est le moment où la société de classe se met en place. Les esclaves d'un côté, les aristocrates de l'autre. C'est le moment aussi où les théocraties patriarcales se créent. Le pater familias, son équivalent qui est le roi, son équivalent qui est le théocrate, le prêtre-roi. C'est le moment où se constituent des armées. On passe de la préhistoire à l'histoire. Là, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'humanité était obligée de prendre ce chemin? Grosse question. Cette question, on peut la regarder sous deux angles. On peut la regarder sous l'angle des peuples qui n'ont pas voulu prendre ce chemin, et ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui des peuples primitifs, fin fond de l'Afrique ou de l'Australie, ou bien les chamans chez les latinos, ou bien on prenait le chemin de l'histoire. Et puis on pouvait donc considérer, on peut analyser ceux qui n'ont pas pris ce chemin-là, donc ces peuples qu'on appelle primitifs, que maintenant on appelle les peuples premiers. Il y a une autre façon de considérer la question, c'est de voir, d'analyser comment ce changement a eu lieu. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des invasions en Europe et en particulier autour de la Méditerranée. Et à quel moment, il y a les Indo-Européens qui viennent prendre le pouvoir en chassant les cultures et les formes locales qui étaient, je ne dirais pas partout, mais quand même fortement marquées par le matriarcat, le culte de la terre-mère. À ce moment-là, donc, il s'est fait un changement, un déséquilibre. C'est-à-dire que les sociétés premières, primitives, étaient fondées sur trois réalités. La cité, ou la tribu, la communauté humaine, les forces de la nature, les animaux, les plantes, on en a besoin pour vivre, mais en même temps on les respecte. La preuve, c'est qu'on les institue en pouvoir. Et la troisième réalité, c'est le mystère. D'où je viens avant de naître, où j'irai après que je sois mort. Les sociétés primitives, C'est-à-dire celle héritée du néolithique et même du paléolithique, celle dont on voit encore les traces sur les grottes de Dordogne ou d'Ardèche, dans le mégalithisme également qui est fort dans notre région, hein, la Lozère, l'Aveyron, etc., même les garrigues de Montpellier. Bon, il y avait un équilibre de ces trois courants. Cet équilibre, il n'était pas institutionnalisé par des lois, par des choses, des classes sociales, des rôles sociaux. Ce trio dans lequel l'homme avait besoin de se référer en permanence, cet équilibre qu'il recherchait, il le définissait à travers la nature, la terre-mère. On est de la terre-mère. Donc, les grottes, les montagnes, sont un peu les lieux d'habitation de la terre-mère. Il y a ceux qui sont capables de parler à ces forces de l'invisible. Et les premiers qui ont été capables de parler aux forces de l'invisible, c'est qui ? C'est des gens qui ont commencé à essayer de parler aux morts. Comment parler aux morts ? Tu peux parler à l'autre si toi, au même temps, tu es un autre. Donc, si ton autre, c'est un mort, avec une gueule de mort, tu te mets un premier masque. C'est un masque de mort, un squelette, et tu t'adresses à lui. Ça a été le début des arts. Représenter la vie, la mort, représenter les chasses, parce qu'il faut bouffer, donc tous les rituels comme ça d'appropriation. Donc, il y a ce personnage du chaman qui est celui qui sait non seulement peindre la chose, mais l'imiter. Mais comme ça ne suffit pas de l'imiter, je parle à un cheval qui est dessiné sur un mur, j'imite la corporalité du cheval. Je brame comme un cheval. Et en même temps, si je suis dans des états seconds, soit parce que je suis soutenu par des moyens de musicaux, des danses qui me mettent à bout, par des musiques rituelles d'accompagnement en boucle, si en plus j'ai pris certaines herbes, certains champignons, je peux rentrer en possession. Qu'est-ce qu'une possession ? C'est sortir de son corps. C'est-à-dire être capable à un moment donné de se dire « je suis là et je suis ailleurs. Et parce que je suis ailleurs, j'ai laissé mon corps, mais je suis capable de chevaucher l'invisible. Et à ce moment-là, je rencontre un animal propitiatoire, un animal. Et c'est avec cet animal que j'ai imité, avec lequel je corresponds, sur lequel maintenant je vais pouvoir monter sur son dos, que je vais aller à la rencontre de ceux qui ne sont plus là. Des questions que je me pose parce que il y en a dans la tribu qui sont malades, ou bien on a eu une mauvaise récolte, ou bien on est menacé, on est dans la sécheresse, etc. Ou alors on a eu des crues. Et on essaye comme ça de correspondre avec l'invisible. Bon, les chamans, ce sont des médiateurs. Alors vous voyez, il y a la terre-mère, la déesse-mère, il y a le chaman, même avant que la déesse-mère existe, il est arrivé après, il y a le chaman. Mais il y a en même temps cette sorte de véhicule que le chaman chevauche pour rentrer en contact avec l'invisible, avec le mystère. C'est plus ou moins, je vais vite, hein, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais c'est plus ou moins le totem. Je crois que là, on a les origines du carnaval. On a la déesse mère qui représente à la fois, en analogie, la vie et la mort, le printemps et l'hiver. C'est-à-dire, si on veut que la vie soit heureuse, il faut que la déesse mère donne des récoltes. Si on veut être heureux aussi, il faut que la vie soit là et que la mort soit éloignée. Donc la déesse mère, c'est la fécondité, c'est la fertilité. On respecte les Vénus féminines. Les femmes ont le rôle politique dans les tribus. Politique, c'est un grand mot parce que la politique n'existe pas encore. Mais elles sont un peu le pilier de ces sociétés-là. C'est elles qui inventent l'agriculture, c'est elles qui inventent l'élevage. Les hommes font aussi, sont encore dans la tradition des chasseurs-cueilleurs. Et puis il y a ce grand chasseur qu'on appelle, qui est le chaman, c'est-à-dire c'est le chef des initiations. Mais en même temps, c'est celui qui est dans la complicité du gibier. qui est en même temps capable de choisir dans ce gibier un animal totémique et sur cet animal de pouvoir partir avec les âmes qu'il faut ramener ailleurs parce qu'elles ne peuvent pas rester là. Et en même temps, il faut amener chez nous des âmes qui sont à naître. Le carnaval, de par sa situation, sa date, son existence, c'est février, mars. C'est le moment où, effectivement, le printemps va démarrer. C'est le moment où les morts sont là. Alors, les morts sont là, perdez qu'est ce ou à qui? Mais à qui est simple? Calagacha, simplement, l'étymologie de ces boulettes. Le masque. Et il est difficile d'être un carnavalier, d'être même un chaman, s'il ne se met pas un masque, se peindre, etc. Et il faut sortir de soi. Il faut libérer de soi ce qu'on se cache. On est sur terre pour une raison. On ne sait pas trop bien laquelle. Je ne suis pas ce que je suis. Parce qu'à l'école, on m'a dit, ne sois pas ça. À la maison, on m'a dit, ne fais pas ça. Moi-même, j'ai peur d'être ça parce que je vais trouver du boulot, je ne vais pas me faire foutre la porte. Donc, mon être profond, ce pourquoi je suis né, il est refoulé. Mais si je me mets un masque, je me donne une clé pour le libérer davantage. Le mot masque, en occitan, loup masque, c'est le sorcier, chaman. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sorciers en occitan. Il y a l'oumage, il y a l'endébinaire, il y a l'armacier. Et ils ont tous un peu cette notion de parler avec l'invisible. Hein. Mais loup masque, le sorcier, masque, loup masque et masque en indo-européen. Donc quand les indo-européens arrivent et qui prennent en main la situation locale, le pouvoir, etc., ils appellent masque le filet dans lequel ils emprisonnent les morts pour être sûr que leur âme ne reviendra pas nous emmerder ici-bas. Là, je crois qu'on a, à travers simplement, vous voyez, on pourrait citer d'autres analogies possibles sur les hommes sauvages qui descendent au moment de carnaval pour redonner à la cité, comme ça, des spirites animales, hein, les énergies fécondatrices, renouvelantes, hein, fécondité, mortalité, renaissance, éternel retour. C'est là-dessus que les sociétés préhistoriques sont fondées. Quand les Indo-Européens arrivent, encore une fois, on essaye de faire rentrer d'autres dieux sur le schéma trilogique, le trio, déesse mère, chaman, totem. On essaye de faire rentrer le panthéon des dieux, etc., avec les dieux, les hommes qui voudraient être éternels, donc les rois qui deviennent des prêtres et de grands guerriers et qui ont besoin d'étendre leur cité pour devenir un empire, etc., etc. À ce moment-là, quand même, les forces locales, comme dans le haut Moyen-Âge, sont suffisamment fortes pour que les Grecs, par exemple, les Doriens, sont obligés d'intégrer un dieu étranger, du panthéon étranger, dans leur panthéon à eux. C'est Dionysos. Dionysos, il n'est pas né en Grèce. Dionysos, c'est le dieu étranger. Dionysos, c'est un dieu qui vit avec des femmes. Des femmes qui sont plus que des Amazones. Ce sont les dernières résistantes du matriarcat méditerranéen. Alors on intègre Dionysos, on intègre aussi certaines fonctions féminines. Les Amazones, on leur donne un petit rôle dans la mythologie grecque. On intègre aussi des déesses qui représentent aussi la nature. Mais on en fait la femme de Jupiter ou la fille de Jupiter. Mais on essaye de réguler tout ça. Alors on met un Hercule au milieu, parce que l'Hercule c'est le missionnaire de la mythologie grecque. On veut conquérir une terre, d'abord on envoie Hercule. Quand Hercule il a fait le ménage, alors puis après, on envoie les marchands. Et après les marchands, ça ne suffit pas, on envoie les guerriers. Mais le schéma, donc, c'est que les Grecs n'ont pas pu imposer totalement leur mythologie. Ils ont condescendu à Dionysos, par exemple, au fait dionysiaque. Les grandes Dionysies, les petites Dionysies. Et à partir de là, est né le théâtre grec, qui avait trois
choses, trois catégories. La tragédie, qui était le drame de la cité, le drame satirique, qui était un peu des drames de la nature, mais qui était personnifié à travers des satyres, des faunes, des silènes, des sylves, qui ensuite sont devenus des fées. Et puis la comédie. La comédie qui est la parodie, qui est Aristophane, qui est comment on se moque de la cité. Comment en même temps on se moque de la cité, mais en prenant appui sur des comportements personnels dans lesquels on puise dans nos forces naturelles. À partir de là, la contre-culture commence. Mais à partir de là aussi commence la séparation d'un corpus unique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre les arts, la médecine. À la base comme ça de la culture locale carnavalesque, il y avait la transdisciplinarité. Il y avait le cœur. Ce n'est que progressivement dans le théâtre grec qu'on a fait rentrer des acteurs. Et puis qu'on a fait rentrer des spectateurs. Au début, il y avait le cœur plus un acteur, puis il y a eu le cœur plus deux acteurs, puis il y a eu le cœur plus trois acteurs, puis il y a eu plus de cœur du tout. Puis il y a eu des spectateurs payants et des acteurs professionnels. Il y a eu comme ça une dégradation du culte dionysiaque, mais sans pour autant empêcher que, dans le domaine du sacré, comme dans le domaine du comique, une contre-culture se crée dans laquelle les peuples vont continuer à animer leur sens naturel, écologique, et leur sens social contestataire. Ce seront les paroles d'Aristophane, de Plote chez les Latins, de la farce moyenâgeuse ou de la jonglerie moyenâgeuse, de la commedia dell'arte, il porte des masques, regardez lequel il a encore une bosse. Représente-t-elle le troisième œil avec lequel on voit l'invisible, ou représente-t-elle une corne d'un ancien homme sauvage? Après, il y a toute cette tradition de la comédie de l'art, mais qui ensuite va donner naissance à la comédie plus ou moins récupérée qu'on retrouve aujourd'hui, avec quand même bien souvent des gens qui essayent de maintenir cette chose-là, qui s'appelle Coluche, qui s'appelle d'autres noms, c'est-à-dire de grands burlesques, Charlie Chaplin, et même si la forme de comédie évolue, il y a quand même ce fond vieux, c'est-à-dire ce souvenir que les hommes en société ont d'un temps dont la vie reposait sur l'économie sacrée. L'économie sacrée, c'est pas l'économie de nos écoles supérieures de commerce, c'était une économie qui considère que les choses les plus importantes, c'est de naître, c'est de mourir, c'est de manger, de vivre, de boire, d'être bien ensemble, c'est d'être sûr que après la mort il y a un éternel retour, c'est d'essayer de mettre en harmonie les forces de la communauté des hommes, de la nature dont nous descendons, sans nom du singe, et en même temps du mystère qu'on n'expliquera jamais complètement, mais qui est là. Cette économie sacrée, ce n'est pas une économie qui se compte par de la monnaie, c'est une économie qui se compte par des vibrations, qui se compte par des ondes. Quand l'homme mégalithique, l'homme préhistorique, il plante des menhirs, il en fait des cromlechs, il en fait des monuments mégalithiques, c'est en même temps pour se soigner. C'est en même temps pour bénéficier des énergies de la terre, du ciel et de la communauté qui lui permettront de survivre. C'est-à-dire que à ce moment-là, ce qui est important, ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas le pouvoir, c'est la capacité de rentrer en synchronicité, en vibration avec les forces qui traversent la planète Terre, des forces qui viennent de son noyau central comme des forces qui viennent de l'univers entier. Quand nous essayons d'inventer des panneaux solaires pour nous chauffer, avoir l'électricité, quand nous essayons de rentrer en vibration avec un groupe de théâtre ou en chantant avec une communauté qui est là pour reprendre, pour nous écouter, quand nous essayons en même temps de trouver des printemps en nous, nous négocions avec des forces, des esprits animaux, des choses mystérieuses qui étaient essentielles dans le monde primitif, mais que nous retrouvons aujourd'hui. Que nous retrouvons aujourd'hui, pas parce que quelques poètes un peu fous comme moi vous le disent, mais parce que aujourd'hui, au niveau des mathématiques quantiques, au niveau de la théorie des cordes, on s'aperçoit qu'ils ne sont peut-être pas si fous, ces préhistoriques-là. Alors, le carnaval, il est complètement l'héritage de ces choses-là. Pour faire un carnaval, il faut mettre le masque, il faut entrer en communion, il faut rentrer en vibration, il faut sortir de soi ce pourquoi on est venu faire sur la terre. C'est ça qui est important. Alors, il y a des initiations qui préparent à ça, mais pas des initiations comme aujourd'hui, l'école. On aurait le temps, je vous amènerai en balade, on prendrait 5 jours et on marcherait ensemble jusqu'en Lozère. Et là, on regarderait au bord des chemins, des drailles, le chemin des bergers, qui ont été des chemins d'initiation. Quand les jeunes étaient à la fin des vendanges, là, au moment de Toussaint, on commençait comme ça de les préparer, de les faire rentrer dans des grottes. La première initiation, c'était de savoir mourir, c'était de rencontrer l'animal qui fait peur. C'était d'essayer d'être mangé par lui, mais en même temps, au moment donné, de le manger, mais de ne plus jamais le manger, mais d'être en familiarité avec lui. Et à partir de là, on rencontrait les morts. C'était le solstice d'hiver, entre Toussaint, solstice d'hiver, et à ce moment-là, le jour renaît. Et avec les morts, on va sortir faire le carnaval. Et quand on sort avec les morts, eh bien, on est moitié blanc, moitié noir. On ne sait pas qui est en vie, qui est mort. Parce que ce jour-là du carnaval, c'est-à-dire des Dionysies, ce jour-là des fêtes du printemps, du renouveau, il y a un mescladis. Et encore, on le retrouve, on le raconte dans nos veillées de carnaval. La danse du soufflet. Pourquoi la danse du soufflet? Parce que les hommes croyaient avoir l'âme dans le ventre. Et on se soufflait au cul parce qu'il fallait que l'âme du mort sorte, fesse la fesse avec nous, mais puis après, parte après le carnaval, parce qu'il n'y avait plus rien à faire là. Et elle part avec l'animal totémique. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive après le printemps. C'est celle qui va partir sur les chemins de transhumance, avec des chamans encadrant des bergers. Et là, ils vont aller vivre dans les alpages là-haut, ils vont aller vivre... sur l'Écosse, sur le Lozère, et là ils vont être en situation d'initiation, ils vont vivre avec les bêtes, ils vont rencontrer d'autres tribus, ils vont se mélanger avec d'autres filles, etc., à travers des fêtes qu'on connaît encore, qu'on retient sur les monts de la Cône. Et le mont de la Cône là, qui surplombe la Cône, comment on l'appelle cette montagne là? Les gosses encore, il y a 100 ans, ils y allaient quoi, pour faire la fête, les garçons et les filles, pour se dépuceler, etc. De quand ça date, ça? C'est le pays des statues menhirs. Et puis, ils revenaient. Expérience sexuelle, expérience de la vie sauvage, expérience de la rencontre avec la mort. Ils revenaient avec les morts pour un nouveau carnaval et une nouvelle séparation. Les morts, vous en allez. Les vivants, on reste. On va fonder des familles. On a eu cette expérience. Et en même temps, nos enfants, ce sera ceux que le totem aura ramené. C'est ça, les bases fondamentales del carnaval. Sous pas les carnavals un peu dégénérés qu'on voit aujourd'hui. L'esthétique carnavalesque, si vous voulez, ne vaut pas trop y des mourants. L'esthétique carnavalesque... je vous conseille un bouquin là-dessus, Bakhtine, c'est sur Rabelais. Et le Bakhtine de Rabelais, et il parle du réalisme grotesque. C'est-à-dire que le principe de l'esthétique carnavalesque repose sur tout et dans tout. Je suis un homme, pour être une femme, je descends de l'animal, qui descend du végétal, qui lui-même est de la poussière d'étoiles. Dans la figuration carnavalesque, est-ce que podiestre un homme, podiestre un biel, un giuve, un fenno, podiestre tabe nascu del maridage entre un homme et une bestio, pode, comme Jean de l'Ours, podiestre tabe nascu del maridage d'une bestio et d'un végétal, ou d'un végétal et d'un minéral. Voyez, tout est dans tout. La peinture carnavalesque, elle n'oublie rien. Elle ne vous dit pas, tu montes sur une scène et tu te casses ton vagin ou ton berlingot. Elle te dit, fais vivre tout ça. Ta nature, ta sauvagerie, ta sociabilité, vas-y. Hein, la, alors des fois, tu vas pouvoir être froid comme un minéral. D'autres fois, tu vas pouvoir devenir un incendie comme un feu de paille, une danse de feu de paille. Tu vas pouvoir... Hein, tout est dans tout. Regardez, les, chez Rabelais déjà, les figures ou la peinture de Bruegel l'Ancien, ces personnages dont on ne savait même pas plein, c'est sous animals, c'est sous homes, c'est sous caractériales, hein, voilà. C'est la première notion, tout est dans tout. La seconde notion, c'est l'inversion. Elle part du principe que quand on vit, on vieillit. Quand on vieillit, on prend des habitudes. Quand on prend des habitudes, on prend des raideurs. Quand on prend des raideurs, on devient réactionnaire. Quand on devient réactionnaire, on glace la vie. Et la vie, on ne peut pas la glacer. On ne peut pas la phagocyter. C'est une invention permanente. Elle a besoin d'avancer. Donc, il faut l'esthétique en avalesse, il faut pratiquer tout et dans tout, et il faut pratiquer l'inversion. L'inversion, eh bien, il y a quelque chose qui t'empêche de vivre, eh bien, tu imites la chose qui t'empêche de vivre. Tu l'imites pour la renverser. Un homme, une femme est emmerdée par un homme, la femme s'habille en homme, elle s'amuse à jouer l'homme, en même temps elle domestique l'homme, elle prend de la force vis-à-vis de lui, de l'autonomie vis-à-vis de lui, elle s'en rit, elle s'en jouit, et en même temps elle libère chez elle le désir qu'elle se cachait. C'est la pratique de l'inversion. Tous les carnavals, l'histoire des carnavals, par exemple le carnaval de Romance, hein, pas loin de chez nous, donc c'est le nord de l'Occitanie, hein, c'est un carnaval où effectivement il y a des révolutions qui se font. Hein, il y a des révoltes qui se passent. Mais pas forcément que des révoltes sociales. C'est des moments où également on peut renverser un certain nombre de pouvoirs. Bien sûr, l'Église, la société a canalisé tout ça de telle date à telle date. Donc c'est devenu une sorte de, comme on dit aujourd'hui, une soupape de sécurité. Comme disait Aristote, bon, c'est bien la catharsis. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir une catharsis ou une révolution? Alors la révolution, c'est de foutre tout par-dessus, faire tout péter, hein, alors que la catharsis, c'est au contraire le produire sur une scène de théâtre ou dans une boîte de nuit, parce que là, ma foi... Allez, qu'ils se défoulent, puis après ils reviendront tranquilles, ce seront de bons soldats, de bons papas, de belles mamans, et puis on continuera à être exploités comme on l'était. Là, il y a eu, voyez-vous, une récupération de la chose. Le principe de la libération carnavalesque, du renversement, c'est-à-dire de l'inversion, elle ne vise pas forcément à être récupérée. Elle ne vise pas non plus à créer une révolution à tout prix. Elle cherche à créer un chaos, un bordel, dans lequel l'homme va pouvoir un petit peu renaître parce qu'il aura retrouvé ses origines. Est-ce un pauvre carnaval des cours latérales, sauf à un pauvre snob, ou bien tes vestis, c'est un blanc, le paillasse, tes courses après, ta ganto, tes campos, ding. La mère de la Vinasso, un teia de ding, des merdes et tout ce que vous laissez, et tu es ramené à ta réalité humaine. Tu t'appelles monsieur le président de la République, mais comme moi, chaque jour, tu as besoin d'aller caguer, tu poses les frocs et tu vas caguer. Bon, je veux dire, tout ce n'est comme ça. Bon, donc, le carnaval, il te le rappelle. Fais pas ton grand caïd, là, chose comme tout le monde. A besoin d'épissa, des cagas, et chose pas mal inhumaine. C'est pas parce que tu es président de la République que tu trouveras la solution à la crise. Commence à savoir que tu es un homme. Hein, à parler aux autres hommes, de réfléchir ensemble. Alors vous voyez, tout est dans tout, renverser, inverser, mais en même temps, retrouver ce chaos dans lequel, duquel on va renaître. De quel on va renaître, pas pour prendre le pouvoir ou rentrer dans les rangs, dans lequel on va renaître pour recréer un équilibre des choses. Et l'équilibre des choses, c'est cette fameuse pendule préhistorique, entre guillemets, qui est un équilibre entre la nature, la cité et le sacré, le mystère. Le problème, là, il n'est pas de se dire « je crois à Papa Noël » ou « je crois à Jésus-Christ ». Le problème, il est de se dire simplement « il y a un mystère ». Tout ce qu'on ne peut pas encore expliquer. Mais il pèse sur notre vie, ce mystère. La mortalité, elle existe. Je veux dire, elle est aussi présente qu'un patron qui te fait chier à la mortalité. Ou qu'un petit copain qui t'emmerde. Bon, donc c'est des choses que tu passes pas à travers. Mais il ne faut pas qu'une de ces trois choses prenne le pas sur l'autre. Donc, le principe, vous voyez, carnavalesque, est un principe où on essaye de peindre tout dans tout. Parce qu'on est sous on est des poussières d'étoiles magnétisées par les forces du cosmos et de la Terre, mais en même temps, on est là avec Père de Kesuyaki, que ses potes pas libérants, alors Cal se désliura de tout. Mais en même temps, Cal, Père se désliura de tout. Cal commença par imiter ce qui était merde, et une cop que la imita, de ne prendre possession et puis de le renverser. Le chaos, comme on te fasse une nature nouvelle, et après, il te trappe sous un équilibre, dans un équilibre général. Et ça, le processus anthropologique du carnaval, et ça, le processus esthétique du carnaval. Alors, la symétrie. La symétrie, c'est toujours, je suis asymétrique parce que je boite. Il n'y a qu'à voir dans toutes les rituels, même indo-européens, la notion de la claudication. Hein. Mais en même temps, cette claudication, c'est les temps ternaires, le troisième temps, la bourrée. Et ce sont des temps comme ça où il y a toujours un temps qui fait bascule, qui appuie pour se relancer ou qui appuie pour se casser. Hein. Ce sont... l'asymétrie. Il y a toujours quiconque est claudique. Il y a toujours un défaut dans la cuirasse. Il y a toujours un œil en dehors pour te faire niquette. C'est ce principe anticlassique que l'homme n'est pas parfait. Donc, on se donne toujours un fou chez soi. C'est le troisième temps. C'est celui qui va, en cas de coup dur, permettre de contourner l'obstacle. Ou bien de prendre possession de l'obstacle. Bon, tout ça, c'est dans la musicalité, dans l'habillement carnavalesque, dans l'interprétation carnavalesque, dans les peintures carnavalesques, que ce soit des peintures d'un Bruegel, que ce soit des peintures de Bosch, que ce soit aussi les histoires que raconte Rabelais. Alors, je dis cette esthétique carnavalesque, n'est-ce pas une esthétique que les Cal Benesi comment la religion catholique ou protestante ou ce que vous voulez. C'est pas une religion de plus, l'esthétique carnavalesque. On peut être nous-mêmes. Et quand je suis moi, je peux aimer, par exemple, la poésie romantique ou bien Alfred Jarry plutôt que Baudelaire. On a tous ensuite notre propre sens, notre propre sensibilité. Hein? Mais il faut savoir que le populaire a fait culture d'une manière de vivre qui était pour lui la seule façon de survivre à l'adversité de l'espace, du temps et des autres. Et c'est là-dessus qu'il a fondé Carnaval. Alors c'est pas la clé qui ouvre toutes les portes, mais quand on veut se servir de cette clé, qu'elle s'ouvre, d'où elle remène, d'où elle vient, hein. Bien que Calaro de Lourdes, de par là, un peu de revenir à cette notion du carnaval d'aujourd'hui. Alors, carnaval aujourd'hui, quand il y a le calendrier traditionnel, hein, c'est février-mars, Unte. Alors, où ça peut se faire dans son village, ça peut se faire dans son lieu de travail, l'université, ça peut se faire dans son quartier, en Bécals, les voisins, la corpo étudiante, des alternatifs, qu'aussi on se donne une thématique, on se donne des moyens collectifs, le phénomène des bandes,
on se donnait des moyens personnels aussi. Qui est-ce que je veux être là-dedans? Dans quelle bande? Il y a, vous voyez, un certain nombre de questions à se poser, en même temps à travers des universaux du carnaval. Et que par exemple, la carnavaline qui donne la fièvre, comment on fait monter la fièvre de carnaval? Les rumeurs qu'on fait courir avant carnaval. La transdisciplinarité. Quand on fait carnaval, on a besoin de danser, de chanter, de se servir de son corps. Puis après, bon, les traditions locales. Est-ce qu'il y a des traditions locales de carnaval? L'arrivée. Carnaval, les arrivées. Faisait la fête. Bon. Comment on fait arriver carnaval? Est-ce que c'est le Saint-Pansard qui vient d'Aragon, à Pau? Est-ce que c'est Saint-Blaise qui vient chercher les clés des trois capitouls de Pézenas, des trois consuls de Pézenas? On prend les clés de la cité, qu'est-ce qu'on en fait des clés de la cité? On promène un roi carnaval, on promène un totem, on promène des bandes. Elles font quoi ces bandes? Quel thème elles se sont données? Elles veulent rire de quoi? Elles veulent faire la fête comment? Entre nous, une fête partagée avec un public? La Chine, hein, chiner des gens qu'on voit dans la rue, qui ne te reconnaissent pas, que tu t'en amuses? Le coup monté, le coup montat? Quel délit, quelle transgression on se permet. Per justement, faire bouler l'oulo, pour faire péter la marmite. Et en même temps, c'est sur ce délit-là que ensuite la faute est commise et que la récupération a lieu. C'est-à-dire ensuite, donc, monsieur Carnaval, tu en as trop fait. Donc maintenant, tu vas être jugé. Tu vas être jugé et en même temps, tu vas être brûlé. Et en même temps, quand on le juge, on vient témoigner, je suis pour, je suis contre, alors là, il y a tout qui peut ressortir. Mais en même temps, le juge, c'est la loi. Et donc, il est jugé, il est brûlé. Il y a sa veuve, la vieille, qui vient pleurer. Mais en même temps, la vieille, elle est enceinte. Et peut-être aussi les cendres de carnaval, la veuve les ramasse. Et elle va ensuite les éparpiller quelque part, où elle fera une semence pour qu'ils reviennent l'année suivante. Ça, ce sont des universaux du carnaval, modulables selon les traditions locales ou bien selon ce qu'on a. L'urgence d'inventer aussi. Ça, c'est un aspect. Comment vous allez faire carnaval? Mais il y a aussi un autre aspect. C'est que, et là, je le dis parce que je l'ai fait dans une université, que je me suis cassé les dents, c'est que nous sommes porteurs de quelque chose qu'on appelle le patrimoine culturel universel, immatériel. Le carnaval en fait partie. Les fêtes de Saint-Jean, les solstices d'hiver, il y a des tas de fêtes populaires qui font partie de ce patrimoine culturel immatériel. Ces choses-là ne sont pas enseignées. Ces choses-là sont plus ou moins proscrites par les médias, les politiques, etc. Mais en même temps, ces choses-là continuent d'exister. Et ces choses-là, on peut s'en emparer. Il y a des chercheurs qui y travaillent. On va mettre en place des formations payées pour les reprendre en main. Et on va faire là-dessus aussi des spectacles qui ne seront peut-être pas des spectacles carnavalesques à la mesure où au carnaval, tout le monde joue. Mais on est dans une situation où malheureusement, tout le monde ne fait pas carnaval et à carnaval, tout le monde ne joue pas. Donc nous sommes dans des situations où il faut en même temps re-ensemencer un peu les armasses. Pour que de nouveau moissonnent d'autres possibles. Donc il faut poser la question sous ces deux angles. Je suis étudiant à Montpellier, comment je fais carnaval? Mais en même temps, je suis jeune, j'ai ma vie. Comment je peux en même temps m'associer, me fédérer avec d'autres pour que tradition et imaginaire populaire puissent conforter ses racines et jaillir, plomber, maille dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Merci.
Merci.
À cause de la dernière partie de quelle conférence menée par Claudia Lranque. Écrivant, comédien, universitaire, cercaire, à propos des carnavals. carnaval, ses origines, sa tradition et son fonctionnement veille. À quel registrement fut réalisé le 12 de décembre de 2012 à l'Université Pau Valéry de Montpellier, à l'initiative del MEDOC, l'Association des étudiants d'Occitan de la Faculté.